À l'occasion du numéro de mars qui porte sur le féminisme du Bazomag, je vous propose une rencontre avec Marie-Claude Barrette, l'animatrice qu'on retrouve entre autres à la barre de l'émission « Deux filles le matin » depuis plusieurs années. Rencontre avec une femme inspirante. Marie-Claude Barrette, bonjour.
Bonjour Marie-France.
Est-ce que tu te décris, toi, comme une féministe?
Absolument. Et ça depuis toujours, en fait. Adolescente, j'avais lu « Mémoire rangée » de Simone de Beauvoir. Et je pense que ça m'a fait découvrir qu'il y avait, en tout cas surtout à cette époque-là, peut-être encore plus, une différence entre les hommes et les femmes que je n'avais jamais constatée vraiment. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience que la femme et l'homme, c'était deux êtres différents et que dans la société, l'évolution ne s'était pas faite de la même manière et que les femmes venaient à peine d'arriver sur le marché du travail. Dans le fond, je réalisais ça dans les années 80, que les femmes, ma mère, moi... Elle était hybride. Tu sais, au début, elle restait à la maison, puis à un moment donné, elle est allée travailler. Elle a fait partie comme de ce nouveau changement-là. Mm-hmm. Et j'observais ça, et je trouvais ça étrange. Tu sais, que pour moi, une femme, ça travaillait. Déjà, à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai commencé à me poser des questions sur les hommes, les femmes, les professions masculines, féminines. Je posais beaucoup de questions, puis je réalisais que l'accès à l'université pour les femmes, c'était tout récent. Et vraiment, je me suis dit, bon, ben, il y a des femmes qui ont porté cette cause-là, et maintenant, en tant que femme, je me disais forcément, je suis féministe à quelque part. En tant que femme, je veux que la femme prenne la place qu'elle veut prendre. Je n'aime pas qu'on impose la place, mais pour moi, ça fait partie de ce que je suis. Et je pense que si j'étais née plus tôt, probablement que j'aurais été une féministe qui aurait brûlé son soutien-gorge.
Pour C'est vrai?
Absolument. Je suis pas mal sûre parce que moi, je suis une militante dans l'âme. Fait que j'aurais voulu, ma cause aurait été moi-même, en fait, en tant que femme. J'aurais voulu prendre un chemin qui n'était peut-être pas celui de ma mère si j'avais été à cette époque-là. Mm-hmm. Maintenant, en 2016, pour moi, c'est plus ça, tu sais, c'est pas, moi, pour moi, je brûlerais pas mon soutien-gorge. Je pense qu'on a quand même beaucoup évolué, on reproche beaucoup de choses, mais quand on regarde, c'est quand même récent comme évolution de la femme. Moi, je suis pas une hargneuse. Je me dis, faut juste, en tant que femme, ne jamais accepter qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, qu'on ne soit pas brimé par notre sexe.
Mmh. Comment tu définirais ton féminisme? Parce qu'au départ, c'est vraiment la prise de conscience intellectuelle d'une toute jeune fille. Et c'est vraiment, c'est toi qui chemines dans ta tête. T'es pas confrontée directement à des injustices sur le milieu du travail. C'est vraiment un féministe intellectuel dans un premier temps. Comment s'est-il modifié? Comment tu le qualifierais aujourd'hui, ton féminisme?
Bien, premièrement, j'ai deux filles. Hein? Tu sais, j'ai une fille de 19 ans, j'ai une fille de 13 ans. Alors, je trouve ça beau maintenant parce que je ne sens pas de différence, mais je voudrais pas qu'elles en sentent. Tu sais, moi, je trouve que le féminisme actuel, c'est de ne... Je vais donner un exemple très, très concret. Quand j'étais à Rivière-du-Loup, j'avais des postes de direction générale, tu sais, ou encore responsable de financement, tout ça. Et des fois, j'étais sur des comités avec des hommes et ils me disaient, bon, on aurait un déjeuner demain matin à 7 heures. Est-ce que ça te va? Puis j'étais, à 7 heures, moi, c'est pas possible, là. Puis je féminise ça parce que c'était, à l'époque, c'était comme ça. Je veux dire, avec les gens que j'étais, c'était comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes à la maison. Mais moi, je leur disais, mais qui est avec vos enfants à 7 heures le matin? On s'entend que les garderies sont pas ouvertes. Là, je vais pas me lever à 5 heures pour aller mettre mes enfants quelque part. Et puis, je dis, ben, mettre, parce que je trouvais que ça faisait un peu ça. On se débarrasse de nos enfants. Puis, ils disaient, ben là, nous, on a nos conjointes ou on est en garde partagée. C'est pas ma semaine. Et ça me choquait. Puis, j'étais là, non, il n'y a pas question qu'il y ait un déjeuner. Ça a l'air de rien, mais moi, dans ma vie, je faisais reporter ça pour être capable d'assumer ce côté-là parce mm-hmm. qu'ils appropriaient aux femmes beaucoup. Mais je trouve que faut pas se laisser distraire. Tu sais, comme les femmes et le pouvoir. Moi, j'ai essayé de convaincre des femmes d'aller en politique. Tu sais, j'ai déjà essayé de faire ça dans ma vie. Et les femmes avaient peur de ne pas être parfaites. Avait peur de dire, ah oui, mais si je fais, si par exemple on me questionne sur quelque chose, je connais pas tout ce dossier-là, comment vais-je répondre? J'ai senti ça beaucoup et je trouve comme femme, j'essaie de dire aux femmes, arrêtez d'avoir peur. Tu vois, moi, je suis pas contre les hommes. Moi, c'est juste comme femme, à un moment donné, il faut arrêter aussi d'avoir peur. Et les postes de pouvoir, ça vient avec une grande partie de responsabilité. Mm-hmm. Et oui, on peut faire des erreurs. Et oui, on peut se faire critiquer. Et je pense que pour nous, c'est assez difficile, cette étape-là aussi de la critique. On a vraiment on est des perfectionnistes, je pense, peut-être plus que l'homme.
Oui. Est-ce qu'on porte en nous notre plafond de verre jusqu'à un certain point? Parce qu'il y en a un réel, on pourra y revenir.
Oui,
mais est-ce qu'on porte avec cette peur-là de ne pas être parfaite, de ne pas être adéquate, de ne pas être à la hauteur? Est-ce qu'on porte notre propre plafond de verre?
Je pense que oui. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, effectivement, on porte ce plafond de verre-là. Et je te dis, cette discussion-là, là, je l'ai souvent avec des femmes. Puis je me dis, vous pourriez tellement, tu sais, j'ai des individus dans ma tête, je me dis, elles pourraient tellement rayonner davantage. Mais cette peur-là, et pourtant, moi, j'étais souvent dans des événements politiques où des hommes et des femmes prennent le micro. Souvent, c'est les hommes qui vont plus prendre le micro dans des débats, dans ce que moi, j'ai vu, là. Et des fois, là, ils disent n'importe quoi, honnêtement, mais c'est avec une assurance qu'on a pas l'impression que c'est n'importe quoi parce qu'ils le disent vraiment avec une confiance.
Oui.
Et souvent, les femmes vont pas y aller pour dire « Ah, moi, je suis pas certaine, mais à un moment donné, si tu veux faire avancer les affaires, faut que tu prennes la place. » Et ça se peut que tu saches pas tout, mais au moins, dis ce que tu sais. Et si la critique vient avec, ben faut l'apprendre. Alors, je pense que quand on va avoir compris ça, quand on fait rien, on n'est pas critiqué. Mais quand on fait quelque chose, effectivement, on s'expose. Et c'est pas grave. C'est un signe que t'as fait quoi. Mm. Et je pense que moi, j'ai essayé d'élever mes filles comme ça pour leur dire, être jugé par les autres, là, c'est pas grave. Mm. Si vous avez fait vos choses selon votre conscience, avec vos convictions, allez-y, assumez-vous. On est notre propre leader aussi comme femme. Et ça, ce mur, ce plafond de verre-là, je pense que c'est très féminin, ce côté-là.
Quelle différence vois-tu entre toi, la jeune Marie-Claude que tu as été, et Juliette et Angela? Est-ce qu'elles partent du même endroit que toi?
Elles sont moins revendicatrices que moi.
Ah oui?
Ah oui, moi, tu sais, j'ai été dans des comités en politique, là, des fois, où c'était que des hommes, là. Et je vais toujours me souvenir, Marie-France, un jour, j'étais dans une réunion importante et il y a un des hommes autour de la table qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais nous faire du café? » Et je t'ai dit ça, là. J'étais dans la jeune trentaine. Puis là, justement, je me suis penchée, j'avais mon attaché case, et j'ai dit « J'ai amené mon silex de café. » Et là, ils m'ont tous regardé, puis j'ai dit, mais non, voyons, c'est une blague, là. Pensez-vous vraiment que je vais aller vous faire du café? Pensez-vous que je l'ai apporté avec moi? Ils ont dit, non, mais il y a une petite cuisine. Non, non, non. J'ai dit, moi, je me lèverai pas pour aller faire du café. Mm. Et ça a fait un froid dans la réunion, mais je me disais, mais quand même, là, ça fait peut-être 15 ans de ça, là. Et il y avait quand même, parce que j'étais une jeune femme, je pense en plus quand on est jeune.
Oui, oui, oui.
Et qu'on est une femme, il y a quelque chose là. Et là-dessus que je veux dire, moi, je suis revendicatrice. Toutes les fois que moi j'ai senti une injustice, je l'ai dit. Dans la négociation des contrats aussi. Tu sais, un jour, je me souviens, Marie-France, j'étais allée négocier un bail commercial. Et c'était un homme qui était là. Et il me regardait à peine. Il me disait, vous êtes venue seule? Mais j'étais là, oui. C'est quand même juste un bail de commercial, c'est pas une grosse affaire. Et à la fin, il a dit, bon, vous pouvez disposer sans me regarder.
Mm.
Et sais-tu quoi? Je suis retournée avec un homme à cette réunion-là, à cette rencontre-là, parce que j'avais pas le choix. Et là, tout d'un coup, il regardait l'homme. Et ça, je lui ai dit. J'ai dit, c'est moi qui signe, est-ce que vous le savez? Je l'ai juste amené, là, parce que je l'ai apporté avec moi, parce que sinon, je pouvais pas signer le contrat. Mais imagine, là, il m'a dit ça, vous pouvez disposer.
Ah, c'est incroyable.
Alors moi, j'en ai vécu des affaires où je me dis, faut revendiquer, ouais. Mais mes filles sont moins à date comme ça. T'sais, elles sont plus
mais
jeunes.
Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas justement revendiqué, parce que des choses ont été faites, cette histoire du café, ouais. Cette histoire du bail, ça se reproduirait pas aujourd'hui en 2016?
Ah, moi, je pense que ça se reproduirait. Mais ce que je veux pour mes filles, c'est si elles vivent cette situation-là, qu'elle fasse sentir quand même que ça, c'est pas normal.
Ouais.
Tu sais, des fois on peut pas changer les choses, mais on peut quand même dire ça marche pas. Et même aujourd'hui, quand je négocie mes contrats, moi je n'ai pas peur de parler d'argent.
Mm-hmm.
Et ça aussi pour les femmes,
ouais.
On a beaucoup évolué sur cet aspect-là, mais on a quand même été des années, qu'est-ce que tu veux, dans notre histoire où l'argent, on n'en faisait pas, tu sais. Donc, c'est quand même récent dans l'histoire des femmes. Mais il faut être capable de regarder l'autre, que ce soit une femme ou un homme, mais il faut être capable de parler d'argent. Il faut être capable de savoir comment on vaut. Qu'on ne laisse pas décider l'autre de notre valeur. Et ça, et c'est pour ça, quand je dis je suis féministe, moi, c'est beaucoup pour protéger les femmes. Mm-hmm. Je dis souvent aux femmes, vous avez une valeur, combien vaut-tu? Au lieu d'être frustrée pour dire, ah, j'ai pas encore ce que je veux. Avec tout le travail que j'y mets, avec toutes les études que j'ai faites, je me dis, mais attends pas de l'autre. Comment vaux-tu? Parce que faut parler d'argent en tant que femme. Ça fait partie maintenant de cette évolution-là où on devrait plus avoir ce tabou, surtout quand vient le moment de négocier. Je pense qu'on se... Par rapport aux hommes, si on voulait comparer, j'ai comme l'impression qu'on se rétracte plus rapidement, qu'on a moins d'arguments. Et on a une valeur, alors maintenant, c'est là qu'elle a de la valeur, c'est là qu'on prend notre valeur, c'est quand on est capable de négocier ce qu'on vaut.
Exactement. Tu animes des émissions qui parlent beaucoup à un public féminin. Ouais. Quelle est la différence que tu aimerais faire?
Ben, donner confiance aux femmes. Je te dirais que c'est sûr que l'émission s'adresse beaucoup à un public féminin, mais il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent, mais tu sais, c'est jamais... les hommes contre les femmes. C'est pour ça que ça, des fois, quand on parle de féministes, c'est fatigant parce que t'as des hommes à se battre, une autre enragée. Et moi, je suis plus capable d'entendre ça. C'est foutez-nous la paix. On n'a pas envie de vous tasser, les hommes. On a juste envie, nous, de prendre la place qu'on a envie de prendre, la place qui nous convient aussi. C'est juste ça. Et ça se fait entre hommes et femmes. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, à travers les émissions que je fais, vous êtes des personnes à part entière et vous avez le droit à vos faiblesse. C'est pas parce que vous voulez faire quelque chose qu'il faut être forte dans tout. On a le droit en tant que femme, comme les hommes montrent leur faiblesse. Quand on regarde les statistiques, les hommes font des dépressions. Mm-hmm. Le taux de suicide chez les hommes est alarmant. Nos hommes vont pas si bien que ça. Faut pas penser non plus que tout est rose du côté des hommes. Mais du côté des femmes, je pense la peur, il y a quelque chose d'un peu épeurant, mais faut dire qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas des années derrière nous de pouvoir, tu sais, parce que quand on regarde les femmes et le pouvoir, c'est limité encore. Oui. Les femmes, je trouve qu'on est encore un peu sur la pointe des pieds. Est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce à cause de la façon que ça fonctionne, l'historique? Il y a un peu des deux. Mais c'est sûr qu'à travers ces émissions-là, tout ce que je peux faire, pour laisser la place aux femmes sans distinction par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, mais assumez-vous dans ce que vous êtes et surtout soyez le leader de ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'attendre que vous êtes bonne, qu'on vous dise vous êtes bonne, vous êtes fine, vous êtes capable. Prenez le plancher.
Vous vous sentez donc une responsabilité?
Ah ben absolument, absolument. Puis tu sais, moi j'ai des amis des fois qui m'appellent juste pour que je les stimule. Je me souviens, j'avais une grande amie qui était avocate. Elle avait son barreau, elle a commencé à travailler dans un super gros bureau d'avocat, puis elle était malheureuse dans ce bureau d'avocat-là. Et à un moment donné, elle m'appelle, elle dit « Écoute, je viens d'être acceptée en médecine. » Elle avait dit à personne qu'elle voulait être médecin. Puis j'ai dit « Mais c'est extraordinaire, mais sais-tu, t'es la première? » Parce que tout le monde me disait « Ben là, t'es avocate, c'est déjà beaucoup, tu devrais te contenter de ça. » Puis elle dit, j'ai l'impression parce que elle disait peut-être, on dirait que c'est parce que je suis une femme, je suis déjà chanceuse d'être avocate. Pourquoi t'as toute cette ambition-là? Et le mot ambition fait peur aussi encore, je pense, aux femmes. Tout ça pour dire que finalement, elle est médecin spécialiste maintenant. Wow. Alors, elle a un gros bagage et je suis contente. Moi, je faisais tout pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Mais l'ambition aussi, c'est quelque chose qu'il faut démystifier chez les femmes parce que l'ambition, c'est quelque chose d'un peu négatif. C'est un peu perçu comme tu vas tasser quelqu'un pour prendre la place de quelqu'un d'autre, alors que l'ambition, c'est pas ça. L'ambition, c'est accomplir ce dont on a envie de faire. C'est aller de l'avant. C'est beau de réaliser ce qu'on a envie de faire, mais ça prend de l'ambition pour le faire et ça amène de la fierté. Et je trouve que chez les femmes, des fois, on manque de fierté parce qu'on a de la misère. Tu sais, quand on dit bravo à une femme, elle va souvent dire « ben t'aurais fait la même chose à ma place ». Puis je dis « non, prends-le ». Prends-le. Alors, faut comme solidifier quelque chose. Puis, je pense qu'un jour, elles prendront encore plus la place dans les structures de pouvoir.
Mm-hmm. Je comprends que votre féminisme n'exclut pas les hommes. Il se fait à côté des hommes. Avec les hommes.
Je pense que ça aurait, dans les années 70, c'était normal que ça se fasse un peu les femmes. versus les hommes, parce qu'il y avait quelque chose là, il y avait une barrière qui était là. Maintenant, la barrière est quand même pas mal ouverte, tu sais. On n'a pas, je veux dire, on n'a pas une barrière à défoncer, on n'a pas un mur à défaire. Il y a d'autres femmes qui l'ont déjà fait, ça, avec les hommes. Et je pense que si on veut que les femmes prennent plus de place, c'est d'abord avec les hommes. Puis tu sais, fondamentalement, les femmes ne sont pas bien tant que ça avec tout ce qui est débat. Quand on regarde en politique, je me souviens quand Mario faisait le fameux débat des chefs.
Ouais.
Moi, je dormais pas pendant 3 jours, puis j'étais pas du tout, c'est pas moi qui le faisais, le débat, là. Mais Mario, lui, dormait, là. Tu sais, je veux dire, pour lui, un débat, ça fait partie de la vie politique. Puis je me questionnais souvent, Marie-France, je me disais, si c'était des femmes au pouvoir, mettons, c'était, OK, là, c'est utopique, là, mettons toutes des femmes, est-ce que vraiment les femmes auraient dit, on fait un débat des chefs? Je ne pense pas. Je pense que le débat, la façon qu'on fait de la politique, la confrontation un à un, je pense pas que ça nous ressemble tant que ça. Et je pense qu'il y a un grand malaise aussi chez les femmes face à ça. Je serais curieuse de questionner Pauline Marois, par exemple, qui a été première ministre. Qu'est-ce qu'elle en pensait de tout ça? Mais je pense qu'on, maintenant, justement, faut faire entendre cette voix-là. Si, par exemple, les débats, c'est pas quelque chose qui nous ressemble, mais plus que ça va se féminiser, probablement qu'il y a des choses qui vont s'atténuer, il y a des choses qui vont s'arrondir. C'est ce que je me dis, en mettant les hommes et les femmes, plus qu'il y aura de femmes, plus que ce sera teinté féminin. Ouais. Mais faut-il qu'il y ait plus de femmes?
Ben, la question est belle. Est-ce que tu es pour des quotas politiques?
Pas du tout.
Pourquoi?
C'est mon paradoxe à quelque part, parce que je te dis ça, puis je me dis oui, mais en même temps, je me dis non, parce que je trouve que c'est au mérite. Tu peux pas forcer les gens à se présenter en politique, premièrement, parce qu'ils sont une femme. Est-ce que tu as le droit de tasser des hommes parce qu'ils sont des hommes pour avoir une place en politique? T'sais, moi, c'est à ça que je pense. La journée qu'il y aura plus de femmes que d'hommes, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire, ben c'est normal, ou est-ce qu'on va réduire la quantité de femmes? Parce que quand on regarde dans les universités ce qui s'en vient, il y a quand même beaucoup de femmes là qui sont présentes. Il y a plus de femmes à l'université présentement que d'hommes. Donc, est-ce qu'un jour... ça sera débalancé. Qu'est-ce qu'on va faire, les femmes? Est-ce qu'on va revenir à... Je sais pas. Moi, je pense que quand on a un poste, faut avoir la compétence. Faut être élu, là, si on est en politique. Premièrement, est-ce qu'on va décider... Tu sais, par exemple, dans un monde idéal, ce serait moitié-moitié, mais est-ce qu'on peut décider dans chaque comté qui vont élire? Est-ce qu'ils vont élire une femme, un homme? Est-ce qu'on va dire... voter plus pour une femme que pour un homme? Les gens vont regarder d'abord la compétence, vont regarder qu'est-ce que la personne leur dit. Je pense que dans la démocratie, faut ne jamais oublier ça. On est libre de son choix. Déjà, si on nous impose un sexe, est-ce qu'on est encore libre de son choix?
Oui, mais est-ce que les partis eux-mêmes sont sexistes? Est-ce que les partis eux-mêmes font assez de place aux femmes, favorisent l'arrivée de femmes comme candidates? Est-ce qu'il y a du sexisme en politique?
Je pense qu'il y a déjà eu du sexisme en politique. Pour moi, ça, c'est, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense que ça, c'est oui, la réponse. Est-ce que maintenant, ils sont plus sensible à ça, je pense que oui. Parce que la société a changé et je pense que les citoyens aussi s'attendent à ce qu'il y ait plus de femmes. Alors, tu sais, en politique, il faut que tu répondes aux besoins de ta société. Il faut que tu représentes ta société. Fait que forcément, je pense que ça amène des réflexions. Il y a beaucoup... Les jeunes qui arrivent en politique, tu sais, les femmes, les hommes à l'université, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de... Alors, ces jeunes-là qui arrivent, ils ont moins connu de distinction que nous. Alors, je ne pense pas qu'ils en veulent rendre en politique. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura autant de femmes que d'hommes qui voudront aller en politique? Parce que, tu sais, il y a un bout que les partis, est-ce qu'ils mettent tout en place pour laisser la place aux femmes? Est-ce qu'il y a du sexisme? Je pourrais pas te répondre avec oui ou non, parce que là, ça devient, ça va en fonction des gens qui sont là, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de femmes que d'hommes quand même qui veulent aller en politique. Moi, c'est là-dessus que je me dis, les partis politiques peuvent faire un bout, mais il y a un bout qu'ils peuvent pas faire, ils peuvent pas décider à la place des candidates potentielles. Puis une fois qu'elles sont élues, si tu as un caucus avec beaucoup plus d'hommes et de femmes, la parité, pour moi, m'apparaît... Est-ce qu'on force la parité? Tu sais, moi, j'ai ce questionnement-là. Est-ce que c'est sain de forcer la parité, ou est-ce que tu vas avoir le gouvernement le plus efficace selon les compétences que tu as, par exemple, pour faire un cabinet ministériel?
Mais pour un bout, pour faire arriver toute une génération de femmes en politique, faire un petit peu ce que le mouvement féministe a fait pendant les années 70, de forcer des portes, est-ce que ça aurait pas un effet d'entraînement pour la suite des choses, de montrer aux femmes que... oui, elles ont des compétences, t'en parlais tout à l'heure, elles sont compétentes,
oui,
mais elles n'osent
pas.
Il y a cette peur de l'ambition aussi, de leur ouvrir un peu plus artificiellement, disons, les portes des partis, ça pourrait pas être un phénomène qui enclencherait le reste?
Mais c'est là mon paradoxe, parce qu'en fait, j'ai comme pas de réponse claire, parce que oui, ce que tu dis, ça a tout à fait du sens, mais maintenant, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est une mesure qu'on va dire temporaire, ou c'est quelque chose qu'on va instaurer dans les lois parlementaires, que ça prend toujours la parité? Et en même temps, moi, j'ai envie d'avoir l'exemple de femmes qui sont capables d'assumer ce qu'on leur donne comme responsabilité. Je veux pas non plus voir des femmes qui n'ont pas tout à fait la compétence du poste, mais parce que c'est une femme, on a dû la mettre là. Ça, tu vois, moi, ça me chatouille un peu, parce que moi, si j'ai un gouvernement au pouvoir, j'ai des ministres qui décident pour moi, j'ai toujours envie d'avoir les gens les plus compétents. Mais, tu sais, et si les femmes sont majoritaires sur un cabinet de ministre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les hommes vont dire on revient à la parité homme-femme? Parce que ça pourrait être ça un jour. J'ai comme l'impression, quand on regarde le niveau d'études des femmes, peut-être que dans 10 ans, il y aura plus de femmes. Mais maintenant, faut quand même qu'elles se présentent en politique. Ouais. Là, moi, je parle toujours des partis politiques, des élus. Mais je te dis, ma position n'est pas claire, parce que j'aurais envie de te dire oui, c'est mieux. Mais est-ce que c'est mieux pour diriger un pays, une province? Je ne suis pas sûre.
Penses-tu que les États-Unis sont prêts à élire une femme?
Ça semble pas.
Non, hein?
Je le sens pas, ça. Je sens pas qu'ils sont prêts. Pourtant, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été à la tête des États, quand même, à travers le monde, dans des pays qu'on s'attend moins, tu sais. Je le sens pas. Puis je trouve que... Ce qui m'énerve, là, c'est quand je regarde Hillary Clinton, ils vont sur le terrain que la femme a de la misère, t'sais, se moquer de son physique, t'sais, là où on veut pas aller, nous, les femmes, ça nous tente pas. Je trouve qu'ils y vont... Moi, je trouve qu'on manque de respect envers Hillary. Je dis pas est-ce que je voterais pour elle ou pas, mais je trouve que juste sur son âge, sur son allure physique, sur le fait que c'est la femme de l'autre, je trouve qu'on l'a discrédité sur des choses. Est-ce qu'on aurait discrédité un homme de cette façon-là? Tu sais, je ne les sens pas prêts, entre les Américains, à avoir une femme.
Pour quelle raison, toi, n'y es-tu pas allée en politique? Parce que les offres, évidemment, étais en politique, on peut dire que t'en as fait.
Oui, j'en ai fait.
T'en as fait, clairement, oui. Mais de te présenter, pourquoi?
Je vais te dire, hein, moi, ce qui me paraissait très lourd en politique, c'était, ben, premièrement, que mon conjoint soit, tu sais, les deux en politique, pour moi, deux élus, ça marchait pas, là. Tu sais, moi, mais admettons, avant que Mario soit un élu, là.
Parce que tu étais déjà en politique
avant
de le rencontrer.
J'étais déjà en politique, tout à fait. Oui, j'étais sur l'exécutif national du PLQ. Donc, j'en ai vu, là, je pense que le Parti libéral, entre autres, a dû changer, parce qu'à l'époque où j'y étais, ça fait longtemps, il y avait quand même quelque chose de très, très masculin dans ce parti-là. Tu sais, moi, j'étais une jeune fille. On mettait sur plein de comités parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles, là. Moi, le côté redevable, Marie-France, c'est quelque chose pour moi qui serait difficile en politique. Parce que c'est une perte de la liberté. Tu sais, c'est très personnel, là. C'est pas parce que je voudrais pas porter les convictions d'un parti. Mais reste que quand t'es une élue, comme on l'a fait, Mario et moi, on habitait dans le comté où Mario était élu, pour un et pour l'autre, c'était inconcevable de ne pas vivre là où les gens avaient voté pour Mario. Et donc, ça avait été moi qui avait été élu, j'aurais voulu habiter. En même temps, quand t'habites dans ton comté, toutes les gens que tu vois, t'es redevable à quelque part. Ils t'ont élu. Donc, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a quelque chose qui fait pas leur affaire, c'est sûr qu'ils vont t'en parler. Et tu dois agir parce que t'as été élu pour ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé déposer pendant le week-end, de dire, bon, ben, ce week-end, je ne suis pas redevable, mais en politique, tu peux pas. Alors moi, c'est même pas la critique, c'est même pas ça. Au contraire, moi, la critique fait que j'aurais envie comme quasiment plus d'en faire pour dire, oui, mais ceux qui critiquent, est-ce que vous avez touché, vous, à la politique, tu sais? C'est le respect, pourquoi j'avais un respect pour Bourgault, parce que je me disais, il se permettait de critiquer, mais lui, il s'est mouillé en tabarouette en politique, tu sais, il s'est mouillé, il s'est planté, mais je trouvais qu'il avait le droit de critiquer. Mais les gens qui critiquent, dans leur bureau, ils sont sortis de l'université, ils rentrent dans un bureau, puis on leur donne un clavier, puis on leur dit maintenant critiquer. Pour moi, ça, c'est difficile, parce qu'il faut le faire. Alors, c'est sûr que moi, je le ferais encore plus, mais le côté redevable, là, je te dis, c'est personnel, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. C'est pour ça que je les trouve exceptionnels d'avoir des mandats de 4 ans. C'est long, là, 4 ans où t'es redevable aux gens, où ta liberté, là, tu la mets dans un tiroir et tu la ressors après ton mandat.
Je te mène sur un autre terrain. Ouais. Les femmes et le féminisme, en fait, les femmes et le religieux qui se ressurgit dans nos sociétés de toutes sortes de manières, entre autres à cause de l'islam radical. Est-ce que les droits des femmes sont menacés dans notre époque par le retour du religieux?
Tellement. Ah ben oui, mais c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Mais déjà, tu sais, quand on... La première fois qu'on a voulu protéger, tu sais, quand on est allé en Afghanistan, le Canada,
oui.
La première fois, c'était entre autres pour protéger les femmes afghanes.
Hein? Absolument.
On a oublié ça à travers toutes les revendications. Oui. On veut se retirer. La guerre, c'est pas le fun. La guerre, c'est ci. La guerre, c'est ça. On attend. On veut pas faire la guerre. On est en 2016. Mais d'abord et avant tout, c'était pour les femmes afghanes parce que. Par rapport à nous, ça n'a jamais été comme ça non plus ici, avant le féminisme ou après le féminisme, que vivent les femmes afghanes, c'est terrible. Là. Mais oui, tout à fait, la religion à travers le monde, c'est certainement pas ça qui fait avancer les femmes, parce que puis pourquoi on a peur de, tu sais, de même l'islam, mm-hmm. tu sais, les femmes vont dire oui, on est libre, tout ça, oui, vous êtes libre, mais jusqu'à quel point est-ce que vous êtes aussi libre que nous? Déjà, pour celles qui cachent leur chevelure, qui enlèvent leur côté féminin, parce que c'est quand même ça. Moi, c'est pas religieux, ça. Ça, pour moi, c'est un statement, tu sais. Tu te mets un hijab, ben, c'est un statement quand tu te promènes. Sinon, ce serait quoi?
Ouais.
Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu vois, pour moi, ça, faut être beaucoup comme femme. Même arrivant, j'aimerais les comprendre plus, ces femmes-là. Tu sais, je trouve pas qu'on... Celles qu'on entend, c'est les revendicatrices beaucoup, c'est celles qui vont porter la parole, mais ces femmes-là de l'ombre, qui sont beaucoup plus importantes que les revendicatrices en nombre, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'elles sont heureuses? Moi, j'aimerais... Est-ce qu'elles sont heureuses là-dedans ou est-ce qu'elles voudraient que ça change, mais en même temps, elles ne peuvent pas parler? Mmh. Parce que ça, c'est grave de ne pas pouvoir parler. Tu sais, nous, on peut dire ce qu'on veut ici par rapport au féminisme, mais il reste qu'on a le droit de parole. On peut aller sur la place publique et s'exprimer, que tu sois une femme ou un homme. Mais dans ces femmes-là, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Alors moi, le droit de parole, ça, c'est important. Et tu vois... Moi, ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est un rapprochement avec ces femmes-là. Arrêtez de... Moi, je les juge. J'ai comme un jugement qui arrive en premier. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais envie de leur enlever ça puis dire « soyez libres », tu sais. Mais en même temps, ça, c'est un premier degré. Parce que si je m'assois, je me dis « ben non, je peux pas faire ça ». Elles portent quelque chose avec ça. C'est leur histoire.
Ouais.
C'est la relation qu'elles ont avec les hommes. Donc, on ne peut pas les dénaturer. Mais essayer de comprendre, puis essayer de comprendre ce que nous, on vit. Tu sais, avoir un terrain d'entente. Mm-hmm. Est-ce que ce sera encore comme ça? Et on a l'impression que oui, parce que ça n'a pas l'air à... Ça,
ouais.
C'est nous qui diminuons et c'est...
Oui, il y a quelque chose de très troublant. Là, tu parles de femmes, tu voudrais les questionner, les rencontrer. C'est un rapport d'individu à individu. Ce qu'on a vu le 1er de l'an à Cologne, c'est autre chose. C'est vraiment un mouvement massif d'hommes, visiblement pratiquant la religion de l'islam, qui se sont mis à attaquer des femmes massivement parce qu'elles représentaient ce qu'ils ne veulent pas. L'Occident, une certaine émancipation. Est-ce qu'il y a quelque chose là d'encore plus troublant que le voile dans cette dénégation de ce qu'est la femme occidentale?
Ben c'est sûr, mais ça c'est grave.
Ça c'est troublant.
Moi là-dessus je m'insurge bien plus que sur les quotas, tu comprends? Pour moi les quotas, bon, c'est une solution moderne, hein, d'un monde moderne où la femme a sa place. Maintenant comment on peut aller plus loin? Mais on est comme dans le confort là quand on est rendu à parler de ça.
Ouais.
Là on parle de l'inconfort, on parle aussi d'une forme d'une incompréhension. Moi j'écoute ça, c'est sûr que je suis révoltée, mais les femmes du silence. Hein, les femmes derrière ces hommes-là, on les voit pas. Tu sais, parce que celles qu'on voit, c'est les revendicatrices, que même il y en a qui mettent leur vie en danger, tu sais, pour être capable de parler. Mais je me demande, est-ce que ça commence pas comme ça par du one-on-one, essayer de comprendre avant qu'elles aient un mouvement? Parce que même encore, je me demande comment elles vont faire, ces femmes-là, pour s'en sortir. Parce que visiblement, elles ont des sanctions aussi. Tu sais, je pense que quand ta vie est en danger, est-ce que ça peut aller jusque-là? Moi, quand je regarde ces hommes-là, je me dis peut-être que ces femmes-là se sentent en danger. Et tu sais, Marie-France, quand on se sent en danger, on s'entend qu'on n'a pas envie de sortir toute notre attirail d'armes, surtout si on se sent isolé. Alors, est-ce que ces femmes-là sont isolées? Moi, je pense que le premier devoir qu'on aurait, c'est de sortir ces femmes-là de l'isolement avant de leur demander de poser des gestes. Parce que poser le geste, c'est grave. Tu sais, c'est grave pour... Moi, je te dis, j'essaie d'avoir de l'humanité parce que, comme je te dis, en premier lieu, on a envie de les juger. Puis après ça, c'est tellement plus profond. Le jugement est tellement facile. Même si on pense à... Il y a plusieurs années, la religion, quand le curé allait demander d'avoir un autre enfant à nos grands-mères, ben c'est elle ne le confrontait pas parce que c'était l'autorité, puis elle pouvait décider peut-être d'avoir d'autres façons de pas en avoir, mais elle leur disait pas, elle ne disait pas non, et parce qu'elles étaient sous un joug. Alors on a pris des années à défaire ça et la religion s'est affaiblie. Mais dans ce cas-là, la religion ne s'affaiblit pas. Alors, je te dis, moi, ça, j'en parlais il y a pas longtemps avec une journaliste de ça, et moi, je t'émotive par rapport à ça, parce que je me dis, comment on trace un pont avec ces femmes-là? Et c'est pas facile. Moi, j'en ai rencontré déjà des femmes voilées, parce que c'est drôle, un jour, j'avais parlé à la télé que moi, j'arrivais de la France et j'en avais tellement vu, là. Puis j'avais dit à la télé, moi, j'avais envie de leur enlever ça, d'enlever les voiles. En plus, j'avais vu des burqas, tu sais, en canicule.
Ouais.
Et là, mais en culotte courte, en camisole. Alors, c'est sûr que j'avais pas de fun, là. Tu sais, j'aurais tout enlevé, ces vêtements-là. Et à un moment donné, j'étais dans un endroit public, puis il y avait une quinzaine de femmes voilées qui s'en venaient vers moi. Puis là, je me dis, ça y est, je me fais ramasser, là, tu sais. Mais en même temps, je me dis, je vais leur poser des questions. Et non, elles venaient de me dire merci pour avoir dit ça. Parce qu'elle disait, nous, la burqa, là, on est toujours associé à ça, mais nous, on ne la veut pas, la burqa. Et notre voile, nous l'avons et on aura des conséquences si on l'enlève. Et ces femmes-là, ça a été une rencontre d'une vingtaine de minutes et elles m'ont énormément touchée. Donc, elles n'étaient pas choquées par le propos. Mais tu sais, en même temps, il faut avoir de l'humanité.
Je t'amène sur un autre terrain, celui des femmes et des médias. Beaucoup de femmes dans les médias, beaucoup de femmes à la télé, à la radio, dans les journaux, y compris à des postes élevés. Est-ce qu'il y a néanmoins égalité?
Non. Mais non. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu que ton émission et celle qu'on avait prise avant Christiane Charrette était retirée, je me disais, OK, on n'a pas beaucoup, là, des femmes à la télévision qui donnent leur opinion, qui animent des émissions d'opinion. Où on peut recevoir des politiciens, des gens, en fait, des artistes. Moi, ça m'a fait quoi quand j'ai appris ça? Voilà, deux grandes. Ben, j'espère que vous allez revenir, là, tu sais. Mais je me disais, quand même, deux émissions animées par des femmes qui ne sont pas des émissions où le public, la majorité, ce sont des femmes. Moi, ça m'a fait quoi, honnêtement? Et quand je regarde à la télé, il n'y a pas beaucoup de femmes, ni à la radio. C'est vraiment, je me dis, ça là, c'est un grand questionnement que j'ai. Je me dis, comment ça se fait qu'on en est là? Puis pourtant, ça aussi, on dit, on veut des quotas pour que les jeunes femmes voient que c'est possible, ou les femmes. Mais à la télé, c'est la même chose. Faut aussi voir que les femmes, c'est possible. Puis c'est pas parce qu'il y en a pas, là, de femmes à la télé ou à la radio qui ont ce potentiel-là. Mais en même temps, tu sais, aussi, il y a de la co-animation. Souvent, ça va être un homme avec une femme.
Effectivement. Qu'est-ce qui reste à faire aux femmes québécoises en termes d'égalité?
Ben, assumer ce qu'elles sont. Ne pas jouer, ne pas essayer d'être un homme quand on est une femme. Je me souviens que Lisa Froula l'a dit souvent, mais moi, j'ai connu Lisa Froula, elle était la ministre de la Culture. Ça devait être en 91-92, ça fait quand même longtemps. Et je me souviens qu'on lui avait demandé, elle à l'arrivée du monde de la radio, puis c'est une femme très flyée, puis on lui avait demandé quand même d'être un peu plus conventionnelle, tu sais, parce que bon, elle arrivait dans le milieu politique. Et moi, je pense que ça a pu sa place en 2016. Faut être qui on est. On est flyée, on est flyée, on n'est pas flyée, on n'est pas flyée, mais je pense qu'une femme, premièrement, juste physiquement, doit rester ce qu'elle est, dans ses valeurs. Bon, est-ce que les femmes sont plus sensibles que les hommes? Peut-être, mais si elles sont émues par quelque chose, ben je pense que oui, on peut avoir des larmes. On n'a pas à retenir ça. On n'a pas à... C'est pas parce qu'on est ému, qu'on est touché, qu'on est fragile. Hein, parce qu'on va toujours mélanger beaucoup la femme à est fragile, elle est fatiguée. Non, moi, je me suis déjà fait dire ça un jour parce que j'avais une grosse réaction en réunion pour me dire, oh, tu dois être fatiguée. Puis là, je dis, et puis, qu'est-ce que ça change que je sois fatiguée? Qu'est-ce que ça vous fait que je sois fatiguée? Tout le monde est fatigué. Mais tu sais, c'est comme, ah, un peu d'émotion, c'est de la fatigue. Fait que je pense que les femmes doivent faire fi de ça. Et aussi, tu sais, le côté hystérique de la femme. Je dis ça là, parce que souvent, on va nous reprocher ça dès qu'on a une prise de position, dès qu'on s'enflamme un peu, dès qu'on monte le ton, on est assez jugé rapidement là-dessus. Tu sais, une femme, c'est comme il faut que ça soit stable. Faut pas trop que... Mais je pense pas qu'il faut arrêter de s'insurger. Je pense pas qu'il faut arrêter de monter le ton, même si peut-être ça va en faire rire quelques-uns. Je pense que la femme n'a plus à faire partie du club des hommes. mais la femme peut être tout simplement une femme avec tout ce qu'elle a de beau et tout ce qu'elle a peut-être. Ben c'est à chacune, tu sais, mais on peut montrer notre part d'ombre. Faut arrêter de... Je pense que la femme n'a plus à vouloir être parfaite. Mm-hmm. Je trouve que l'humain, de toute façon, est le mieux quand il est soi-même. Alors, on peut pas enlever les couleurs de quelqu'un puis dire « sois toi-même ». On veut des femmes en couleur. Je trouve qu'elles ont été quand même souvent en noir et blanc avec une couleur, un peu de magenta. 2016, c'est la femme tout en couleur, avec des hommes tout en couleur à côté. Et je pense que c'est déjà mieux pour la société d'avoir toute cette touche féminine-là qui accompagne la touche masculine. Mmh.
Toi, Marie-Claude, dans 5 ans, disons, tu te vois où?
En couleur, mais c'est pas vrai. Dans 5 ans, tu vois, je vais encore écrire, ça c'est clair, ouais, que c'est dans mes plans. C'est sûr que j'aimerais faire peut-être... Tu sais, la télé, c'est un... Moses de beaux véhicules. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir un siège dans un véhicule télévisuel. Mon Deux filles le matin, l'émission Virage aussi. Je suis, tu sais, très, très reconnaissante de ça. Mais j'aimerais vraiment aller encore plus vers les enjeux de société. Parce qu'il y a encore des tabous. Mais en parler avec sans la confrontation. Moi, je pense que ce qui me dérange, parce que, tu sais, tantôt, tu disais, pourquoi t'es pas allé en politique? Moi, la confrontation, ça me dérange dans la vie. Je trouve pas qu'on fait avancer beaucoup les dossiers en perdant du temps. On peut dire, bon, je suis contre, je suis pour, blabla, bon, ça va vite, mais cette confrontation-là amène beaucoup d'émotivité qui servent à rien, finalement, parce que c'est un argument contre un autre. Mais plus à des terrains d'entente. Et moi, tu vois, j'aimerais ça être à la tête d'émissions ou, tu sais, soit à la radio, à la télé ou je sais pas où, mais où on peut avoir des terrains d'entente sur des enjeux de société parce que on en a des enjeux de société, puis je trouve qu'on en a plus qu'avant parce qu'on a moins de tabous, mais quand on... Juste le vieillissement de la population, mm-hmm, c'est un enjeu majeur. La pédophilie, on en... Tu sais, c'est dans l'air du temps. C'est un tabou qu'il faut casser une fois pour toutes. L'inacceptable est inacceptable, point. Mais moi, j'aimerais ça en parler calmement. Je dis ça, mais il y a tellement d'autres enjeux, tu sais. Juste les proches aidants. On sera probablement tous proches aidants ou on aura besoin d'un proche aidant. Les structures ne sont pas faites pour ces gens-là. Les gens qui ont des enfants qui n'ont pas un sou, pour moi, c'est anormal, tu sais, qu'on ne valorise pas plus le fait d'avoir des enfants au Québec. C'est quand même la relève de demain. Notre pyramide est inversée. Tu vois, c'est drôle parce qu'il y a des enjeux qu'il y a 30 ans, je me préoccupais, dont cette pyramide inversée-là, mm-hmm, et 30 ans plus tard, je suis encore là. Ouais. Alors, tu sais, les enjeux de société, je pense que c'est quelque chose qui me rentre de plus en plus dedans.
Ben, on te souhaite le meilleur et ce que tu désires. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Ben, merci, ma France. Merci beaucoup.